Et hey, bienvenue à cette émission des Héros Anonymes. Très, très grand plaisir de vous présenter, comme je disais, deux femmes d'exception. Écoutez, j'ai goût qu'on écoute un petit clip qui va mettre la table, si ça vous va, pour présenter notre premier organisme qui s'appelle Phénotonome, qui est un nom qui devrait, en tout cas, si vous êtes en situation de handicap ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est en situation de handicap, vous dire quelque chose. Ben écoutez, je me tais et on en parle tout de suite après avec Pascal Pilon, qui est directrice générale, qui va être avec nous au bout du fil.
Votre santé ou votre état physique affecte vos activités quotidiennes? Vous avez peut-être accès à du soutien financier sans même le savoir. Par exemple, le Crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH, permet à Léa de réduire l'impôt à payer, même si elle ne se considère pas dans la vie comme une personne vivant avec un handicap. Ses parents, qui lui donnent un coup de pouce financier, pourraient également utiliser ce crédit d'impôt. Pour être admissible au CIPH, vous devez soit avoir une déficience visuelle ou auditive grave, soit être limité de façon importante dans une ou plusieurs activités courantes de la vie quotidienne, ou encore, vous devez avoir besoin de soins nécessaires de façon soutenue. Cette aide peut même être rétroactive sur 10 ans. Et en plus, le CIPH permet à Léa d'avoir accès à la plupart des programmes de soutien du gouvernement fédéral, comme la mesure de soutien en temps de pandémie et le très profitable régime enregistré d'épargne invalidité, le REEI, qui, un peu comme un REER, lui permettra à elle et à ses proches d'épargner pour sa sécurité financière à long terme. Sans craindre les coupures du programme de solidarité sociale, Léa pourrait obtenir jusqu'à 90 000 $ du gouvernement fédéral en subvention dans son REEI au cours de sa vie, sans compter les rendements générés. Si, comme Léa, votre santé affecte votre quotidien, de l'argent vous attend. Vous voulez savoir si le CIPH ou le REEI est pour vous ou l'un de vos proches? Appelez-nous au 1-833-TON-REEI ou consultez notre site web argentvousattend.com. C'est gratuit.
Alors, ça met très, très bien la table. Juste pour retenir l'URL qui a été dit dans le clip, là, je pense qu'il a changé depuis un certain temps, mais on va en parler, pas juste de l'URL, mais de l'organisme lui-même. Bonjour, Pascal Pilon.
Bonjour, M. Lantaigne.
Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très content d'aborder ce sujet-là. Très content personnellement, je vais vous avouer que moi-même, je suis admissible au régime enregistré d'épargne invalidité depuis beaucoup d'années, puis ça m'a pris du temps avant de prendre mon petit courage à deux mains puis d'appeler mon institution financière. Puis quand je vois tout l'argent qui rentre quasiment par magie, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Mais on va en parler du REEI, si vous voulez bien, tantôt. Mais déjà, commençons par la base. Phénotonome, là, on dirait que je ne sais jamais comment bien parler. Qu'est-ce que vous faites?
Phénotonome, on aide les personnes qui sont en situation de handicap, dans le fond, à accéder à l'aide financière à laquelle elles ont droit. On veille à leur bien-être financier. C'est ça la mission de Phénotonome.
Ah ben, c'est excellent comme mission. Je pense qu'il y a beaucoup de besoins de savoir que ça existe. Mm-hmm. Ça, c'est une chose, déjà, de savoir que ça existe. Puis deuxièmement, je ne peux pas parler, là, je ne suis pas le porte-parole de toutes les personnes handicapées ou en situation de handicap, mais... Je vais vous avouer, comme moi, au quotidien, je ne me considère pas en situation de handicap. Là, je suis amputé de la jambe, j'ai une prothèse. Pour moi, une marche ne me met pas dans une situation de handicap. Mais au sens de la loi, je suis bien content que le gouvernement m'offre un crédit d'impôt pour personnes handicapées. Est-ce qu'un des premiers... Ben, je pense qu'il y a peut-être deux freins de base, puis vous pourrez me corriger et n'hésitez surtout pas à le faire. Ben, un, c'est de connaître les mesures qui existent. Puis deuxièmement, c'est de savoir est-ce qu'on rentre dans la case du gouvernement. Est-ce que c'est le genre de discussion que vous avez avec les gens qui vous contactent?
Bien, tout à fait. En fait, j'allais vous dire que ce que vous énumérez, c'est les deux plus grands obstacles à l'obtention des mesures. Au Québec, il faut savoir qu'on est la province, une des grandes provinces canadiennes qui réclame le moins les mesures d'aide du gouvernement fédéral. Et ça, ben, c'est peut-être dû à comment sont nommés les programmes au niveau fédéral. Hein. Quand vous avez parlé du REEI, mais il y a avant d'accéder à ce superbe programme qui est vraiment très avantageux, comme vous l'avez nommé, il y a le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et effectivement, un des enjeux au Québec, c'est l'autodéclaration de ces incapacités. Mmh. C'est-à-dire que les Québécois, les Québécoises qui vivent avec des obstacles importants, hein, qui découlent d'une condition de santé, une condition physique ou mentale, sont frileux ou sont réticents à déclarer leur incapacité au gouvernement. Puis évidemment, si on ne s'auto-déclare pas, si on n'est pas prêt à vouloir partager avec l'Agence du revenu du Canada ou Revenu Québec, qu'on est une personne en situation de handicap, soit parce qu'on a peur de représailles ou simplement parce qu'on ne se considère pas, ça ne nous vient même pas à l'esprit. Un peu comme vous l'avez dit, M. Lantin, vous dites « moi, je vis avec une prothèse, je ne m'identifie pas nécessairement comme étant une personne handicapée hein, », quand on emploie les mots qui sont encore trop souvent véhiculés, on va dire une personne handicapée, alors qu'il faut plutôt concevoir que c'est une personne qui est en situation d'handicap.
Oui, ouais. Effectivement, vous mettez le doigt sur le bouton, oui.
Ben oui, donc c'est ça, hein. C'est donc être une personne en situation de handicap dans notre imaginaire collectif, dans notre culture, les Québécois, on voit une personne handicapée, puis là, on va penser à quelqu'un qui est en fauteuil roulant, une personne avec une canne blanche. On pense aux incapacités, aux limitations qui sont visibles. Mais il y a une grande partie de la population qui vivent avec des limitations fonctionnelles graves, prolongées, hein, qui donc se trouvent en situation de handicap, mais parce que ce sont des incapacités invisibles ou qu'elles-mêmes ne se considèrent pas comme ayant un problème grave et prolongé, hein, ben, elles se considèrent pas comme étant admissibles à ces programmes. Puis ça, c'est le premier enjeu, selon nous, qu'il faut, c'est le premier obstacle à surmonter, hein, c'est déjà de se reconnaître comme étant une personne qui pourrait avoir droit à ces aides financières qui sont là pour compenser les obstacles qu'on vit dans notre vie quotidienne. Ben, donc, c'est des programmes auxquels on a droit.
Oui, puis déjà, c'est ça, c'est de les connaître. Puis ça, je pense que ça fait pas mal partie de votre mission d'aider. Là, je voyais quelque part, si je ne me trompe pas, sur votre site, qu'il y a pas moins de 55 mesures fiscales et aides financières pour les personnes en situation de handicap et leurs familles. Bon, évidemment, j'imagine que vous vous concentrez sur les principales, mais il y a des mesures qui sont là. Si je me mets à la place d'une personne qui nous écoute en ce moment, qui dit ben, peut-être que je réponds aux critères, là, par exemple, pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, qui est un peu, en tout cas au fédéral, le point de départ. Donc, il faut évidemment être admissible au crédit pour pouvoir ouvrir un régime enregistré d'épargne invalidité, si je ne me trompe pas.
Effectivement.
Donc, si on, en ce moment, on écoute, on se dit ben, je fais quoi? J'en parle-tu à mon médecin, à mon prochain rendez-vous? Est-ce qu'il y a, comment la personne peut s'outiller pour commencer cette première exploration-là, à savoir ben, si elle remplit les cases d'une certaine façon?
En fait, non pas qu'on on veuille être indispensable à la communauté, mais j'invite les gens qui se questionnent à savoir s'ils sont admissibles à cette porte d'entrée, parce que c'est vraiment une porte d'entrée sur les autres programmes, le crédit d'impôt pour personnes handicapées au fédéral, je les invite à communiquer avec Finautonome. Puis il y a différentes façons de le faire. Si vous permettez, peut-être que je peux tout de suite aller vers
ben
là.
Oui, mais ben
Finautonome,
on a
différents services pour donc on fait de la sensibilisation, ce dont je vous ai parlé en premier, c'est-à-dire de sensibiliser le public, les personnes au Québec, dire peut-être êtes-vous en situation d'handicap. Vous êtes-vous posé la question à travers le filtre de l'admissibilité au programme, ce que je vous disais. Donc, on travaille sur l'autodéclaration, c'est de la sensibilisation, mais aussi dans nos services. Là, quand une personne se dit, ah ben tiens, peut-être que je suis une personne en situation d'handicap parce qu'effectivement, ma condition physique, mes conditions mentales, hein, donc, mes incapacités, ce que je vis comme obstacle au quotidien, c'est quand même important, puis peut-être que j'aurai droit à ces aides-là. Dans nos services, le deuxième service important, c'est nos conférences. Donc, on ne fait pas des conférences sur les 55 mesures, on ne voudrait pas assommer tout le monde. Puis, en fait, il faut commencer, il y a un parcours qu'on peut faire qui est facilitant. Donc, nous, on a identifié que si une personne pense qu'elle est admissible à ces programmes-là, que le premier pas à faire, c'est d'aller valider notre admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH, au fédéral. Puis là, on fait des conférences, des courtes conférences vulgarisées pour que tout le monde puisse comprendre en langage simple de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on se qualifie vraiment, est-ce qu'on peut être admissible. Et là, on va donner des trucs pour arriver à bien présenter sa demande. Parce qu'il faut être bien préparé pour qu'on soit admissible. Donc, on ne peut pas être admissible si on n'est pas en situation d'handicap. Donc, ce qu'on dit aux personnes, les trucs qu'on donne, ce n'est pas pour que les personnes racontent des histoires. Mais on les outille pour qu'elles se préparent bien avant d'aller rencontrer leur professionnel de la santé. Parce que c'est important dans la démarche de comprendre que le professionnel de la santé va être là pour attester des déficiences de la personne, de ses limitations. Il n'est pas là pour poser un diagnostic. Il est là vraiment pour venir attester qu'à partir de ce que son patient est en train de lui raconter sur sa vie quotidienne, il pourrait être admissible. Donc, lui, il va juste venir décrire les situations de la vie courante dans un formulaire de l'ARC, parce que c'est lui qui est responsable de faire ça, ce que vous allez lui raconter. Donc, c'est pour ça que nous, on dit aux gens, commencez par venir entendre la conférence sur le CIPH, parce que vous allez ressortir avec des outils pour pouvoir vous préparer, puis peut-être même, vous allez devoir sensibiliser votre professionnel de la santé. Oui. Parce que les professionnels de la santé, leur travail, c'est de soigner les gens. C'est pas de remplir des formulaires pour l'Agence du revenu du Canada. C'est pas leur spécialité. Donc, c'est à eux d'attester, mais parfois, ils ne le savent pas qu'est-ce qui est attendu de la part du gouvernement, de l'ARC. Puis là, ils peuvent être réticents à remplir le formulaire. Ils peuvent avoir déjà des croyances sur ce programme-là, penser qu'ils le connaissent, puis finalement, ils ne connaissent pas si bien. Donc, c'est pour ça que dans les services, nos principaux services, ceux qui, selon moi, aident le plus les personnes dans leur démarche, c'est vraiment les courtes conférences de vulgarisation qui expliquent bien comment faire, comment bien se préparer.
Bien, c'est franchement intéressant. Écoutez, si vous me le permettez, je trouve ça déjà super intéressant ce que vous mentionnez comme la notion de parcours aussi, puis comment on prend conscience de qui on est, de nos capacités, de nos limitations avant d'entrer dans tout ça. Je vais nous inviter à prendre une courte pause, puis on va poursuivre cette discussion-là tout de suite après, si vous voulez bien. Pascal Pilon, directrice générale de Finautonome, on continue dans quelques instants. Et on est de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Pascal Pilon, qui est directrice générale de l'organisme Finautonome, qui est un organisme qui est quand même relativement jeune. Je pense que c'était fondé là, en 2019, début des opérations, l'année d'après, puis vous faites de l'accompagnement depuis à peu près 2021. Vous nous parliez dans la première partie, ben justement, à quel point ben le point de départ, c'est un peu la déclaration de la situation de handicap, donc en prendre conscience. Après ça, de bien se préparer via notamment vos conférences pour avoir cette conversation-là avec le professionnel de la santé qui voit ça peut-être comme un formulaire parmi tant d'autres, mais qui a un impact colossal sur, oui, évidemment, c'est un crédit d'impôt, donc on comprend bien sa déclaration fiscale, mais qui est aussi, après ça, une carte d'entrée dans d'autres types de programmes financiers, là, si je comprends bien.
Effectivement, j'aime beaucoup l'adjectif que vous avez choisi. Vous avez dit colossal. Ça a un impact colossal. C'est pour ça qu'on détermine le parcours, parce qu'effectivement, l'admissibilité au CIPH va ouvrir la porte à tout un panier d'aides, hein, des mesures fiscales, des programmes, puis on parle de montants d'argent vraiment importants. Tu sais, on parle pas d'une différence de quelques centaines de dollars par-ci, par-là. Non. Pour la majorité des gens, hein, puis plus on fait cette démarche tôt dans notre vie, donc il y a une question d'âge à travers les programmes, ben plus on va avoir accès à beaucoup d'aides financières. On va avoir accès à des revenus disponibles plus importants. Donc, cette démarche-là pour le CIPH, l'impact, il est colossal. Donc, c'est pour ça qu'on travaille très fort chez Finautonome pour enlever tous les obstacles qui se trouvent sur le chemin des personnes pour qu'elles puissent accéder vraiment à cette première étape qui est une reconnaissance du gouvernement fédéral qu'elles sont une personne en situation de handicap, que la personne se trouve en situation de handicap, puis donc que là, elle va pouvoir avoir droit à différentes aides. Mais comme je vous dis, ça peut être très important. Vous avez un RII, vous savez sûrement qu'au cours de la vie d'une personne, ça peut être jusqu'à 90 000 $ qui est non négligeable. 90 000 $ là, des programmes où on offre à un individu des personnes qui... Hein, qu'on peut qualifier de vulnérables d'un point de vue économique dans le cas où on parle, donc qui ont accès à une aide de la sorte, 90 000 $ ça c'est juste pour le régime enregistré d'épargne invalidité. Mais quand on pense à, par exemple, des enfants hein, en situation de handicap, je m'adresse en ce moment aux parents, aux proches aidants d'enfants qui peuvent se trouver en situation de handicap, parce que c'est des mesures qui sont là aussi quand on a en bas de 18 ans. On peut accéder à ce crédit d'impôt-là. Et là, à ce moment-là, c'est toute la famille qui va en bénéficier. Mais donc, si on pense au supplément d'allocation familiale pour un enfant handicapé, c'est encore une fois par année plusieurs milliers de dollars de plus pour la famille, pour offrir du soutien, hein, pour faire face, pour compenser les incapacités, les limitations, qui va avoir un impact, on va se le dire, sur la vie économique de toute la famille. Donc, ce sont des aides importantes et c'est pour ça qu'il faut bien informer les gens. Notre mission, c'est de donner de l'information, de l'accompagnement pour que ce soit le plus facilitant pour les personnes.
Oui, puis si je peux, allez-y, mais oui, permettez-vous certainement.
Mais ce que je voulais amener, c'est le fait que les dédales administratifs, tu sais, s'attaquer là, à l'appareil gouvernemental pour les familles dont un membre est en situation d'handicap qui nous écoute, je sais que ce qu'ils vivent comme c'est pratiquement de la détresse, hein, c'est de faire face à tout ce dédale administratif-là au cours des étapes de la vie, hein, de la famille ou même de la personne qui est en situation d'handicap parce qu'elle va avoir à traverser toutes sortes d'étapes, remplir multiples formulaires. Puis il y a beaucoup de confusion qui s'installe parce qu'il y a tellement de programmes. Donc, il y a des programmes au fédéral, il y a des programmes au provincial, hein, de la province de Québec. Puis parfois aussi, les gens, ils pensent qu'ils ont été chercher tous les crédits ou toutes les aides auxquelles ils avaient droit parce qu'ils se sont adressés à un des paliers de gouvernement, mais ils n'ont pas été voir de l'autre côté. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est de la vulgarisation, c'est permettre aux personnes de se démêler, d'essayer de voir est-ce que j'ai vraiment toutes les aides auxquelles j'ai droit, est-ce que j'ai fait bien les deux paliers de gouvernement. Donc, c'est là que notre accompagnement intervient. Puis c'est vraiment notre mission, c'est de travailler à soutenir les personnes et leurs familles à leur bien-être financier. Donc, on va regarder vraiment tout ce qui touche à cette sphère-là de la vie parce qu'on sait que c'est un déterminant important pour la santé, pour le développement d'une personne, hein, son bien-être financier.
Ce que je trouve vraiment intéressant dans la notion de parcours, c'est que, prenons une famille ou une personne qui vit seule, qui a des faibles revenus, fait comme, bof, à quel point ça va être utile d'aller chercher le crédit d'impôt pour personnes handicapées? J'en paye presque pas d'impôt ou même pas du tout. Ben, faut pas arrêter à la finalité de ce premier crédit-là, sachant que, ben, justement, si le revenu est plus faible, ben, il y a, d'ailleurs, dans le régime enregistré d'épargne invalidité, ben, les subventions gouvernementales vont être plus grandes en fonction du revenu. Donc, il ne faut pas non plus s'arrêter juste à la première porte d'entrée si jamais on sent que ça ne répond pas à grand-chose.
J'ai même le goût de vous dire qu'au contraire, plus notre situation financière est précaire, donc moins on a de revenus, plus ça devient important, stratégique, ça va avoir un impact, c'est de faire ces démarches-là. Et c'est là où il y a une, j'oserais même parler de mésinformation, hein, c'est-à-dire que c'est pas pour mal faire que l'information n'est pas claire. Il n'y a pas nécessairement, en tout cas, je suis peut-être une personne qui veut voir les choses sous cet angle-là, mais je me dis, c'est pas nécessairement pour mal faire que l'information est mal comprise ou mal véhiculée. Mais quand on parle d'un crédit d'impôt pour personnes handicapées, puis qu'on dit que c'est un crédit d'impôt non remboursable, ce qui est vrai, ben, c'est certain que les personnes qui pensent à qui ça s'adresse à eux, c'est des personnes qui ont des revenus. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas de revenus, qui sont soutenues par des programmes d'aide de dernier recours, donc leur revenu, hein, leur revenu pour vivre provient de programmes déjà gouvernementaux, ils se disent, ben, c'est pas pour moi.
Et voilà.
Alors que c'est faux. Au contraire, faire cette démarche-là pour aller chercher le crédit d'impôt pour personnes handicapées, premièrement, ça peut aider la famille. Donc, si la personne elle-même, elle n'a pas beaucoup de revenus, le crédit d'impôt, il est transférable. Mais c'est surtout que ça va donner accès à un panier d'aide financière, comme vous l'avez mentionné, hein, le REI. Le gouvernement va venir vous soutenir, va venir soutenir les personnes, puis son apport va être plus important pour les personnes qui ont plus faible revenu. Donc, c'est important de bien, effectivement, d'appuyer sur cette notion-là de si on a peu de revenus, ben vous êtes tout à fait les bienvenus à venir chercher de l'aide et de l'accompagnement chez Finautonome. Ce qu'on souhaite, c'est que vous permettre d'avoir des revenus disponibles, c'est-à-dire avoir plus d'argent dans vos poches pour mieux vivre, hein, dans votre quotidien, pour avoir les ressources nécessaires pour votre plein potentiel, pour votre développement, pour que vous puissiez avoir accès au maximum. Donc, effectivement, les personnes qui ont un faible revenu sont tout à fait visées par ces programmes-là.
Bien, certainement. Et les gens qui se sentent dépourvus, qui ne savent pas exactement comment tout ça commence, évidemment, on les invite à vous contacter. Vous avez une ligne d'aide, vous avez, comme vous dites, différentes conférences. Pour quelqu'un là, qui justement nous écoute, entend l'appel, dit ben, oui, je veux bien les contacter. Combien ça va coûter aux gens d'avoir accès à vos services?
Ça ne coûte rien. Donc, notre organisme offre des services gratuits aux personnes et aux autres organismes aussi. Donc, quand on fait des présentations, des conférences, parce qu'on se déplace aussi pour travailler avec la communauté. Donc, s'il y a des personnes qui travaillent dans des organismes communautaires, hein, que vous êtes à l'écoute, puis que vous vous dites, oh là, moi, ben, je pense que mes membres, là, il y en a plusieurs qui connaissent pas ces programmes-là, puis qui auraient tout intérêt à les connaître. Vous pouvez nous inviter, on peut se déplacer, aller à la rencontre de vos membres, travailler avec vous pour les soutenir et tout ça, c'est gratuit. Même chose pour l'aide individuelle. Quand vous appelez à notre ligne d'aide, ça peut prendre 10, 15, 20 minutes, 4 appels, des heures. On va prendre le temps qu'il faut avec vous pour vous accompagner, pour que vous ayez cherché ces montants d'argent-là qui peuvent vraiment faire une différence dans vos vies. Donc, nos services sont gratuits. Les seuls services qui peuvent être en échange de rémunération, c'est quand on peut aussi soutenir les milieux professionnels. Donc, s'il y a des milieux professionnels, bureaux de comptables, les conseillers financiers, les notaires, s'il y a des personnes, des regroupements qui ont besoin de comprendre les programmes, qui veulent savoir comment s'adresser aux familles dont un membre est en situation de handicap, comment donc être plus accessible pour ces clients-là, pour eux, on va les accompagner également. Mais pour toute personne qui se définit ou qui pense être une personne en situation d'handicap, nos services sont tout à fait gratuits. On est un organisme communautaire.
Wow! En tout cas, vous avez une mission qui répond sans aucun doute à un besoin. Des fois, les gens ne savent pas qu'ils en ont besoin, mais on aurait tout avantage, en tout cas, à l'identifier. Et si j'ai bien compris, vous offrez vos services, dans le fond, à tout le Québec francophone et même les francophones hors Québec, c'est bien ça?
Oui, exactement. Donc, toute personne qui se pose des questions sur le régime enregistré d'épargne invalidité, le RI, si c'est un francophone hors Québec, on va lui répondre. Donc oui, on offre des services partout au Québec. Nos services, nos conférences sont souvent virtuelles. Quand on fait des conférences en présentiel, c'est avec la collaboration de d'autres organismes partenaires avec lesquels on travaille. Et pour la ligne d'aide, ben, c'est une ligne d'aide, mais on entend aussi que c'est des services par visioconférence. Donc, on fait des rencontres avec les personnes, un à un, par visioconférence également.
Ah, ben c'est super intéressant. Puis vous l'avez aussi rendu, vous avez rendu tout ça accessible. Là, quand je suis allé, je me souviens plus sur votre site où je suis tombé sur des vidéos, oui. Il était même signé en langue des signes. Donc vous savez, bon, évidemment, avec la clientèle avec laquelle vous avez à traiter, bien évidemment, il faut être accessible. Puis clairement, vous semblez avoir une belle sensibilité par rapport à l'accessibilité de vos services aussi, là.
Mais évidemment, on est dans le milieu, puis ben oui. On offre des services à toutes les personnes. Donc, on n'est pas spécialisé dans une famille, si je peux me permettre, ben d'incapacité. C'est-à-dire qu'on offre des services à toutes les personnes qui sont en situation de handicap, peu importe le diagnostic, peu importe les effets de la déficience. Des déficiences, on va les aider. Donc, effectivement, notre site a été revampé il y a quelques mois pour être plus accessible. On a des capsules qui s'en viennent très, très, très bientôt. Là, c'est d'une semaine à l'autre où vous allez pouvoir avoir des petites capsules courtes traduites en langue des signes et donc accessibles à toutes qui vont bien expliquer ce qu'on fait, donc qui décortique les éléments principaux là, de notre action puis de ce qu'il faut savoir. Donc, oui, effectivement, on veut être accessible à tous.
Bien, vous faites un travail remarquable. Pour les gens là, qui ont des questions, qui veulent vous contacter, le site web, c'est FIN, donc finautonome.org. Également, les gens peuvent vous contacter à votre ligne d'aide qui est le 1-833- 1-833-866-7334, donc le 1-833-866-7334. Vous avez de l'appui de beaucoup de gens dans le secteur. Là, je pense que vous êtes appuyé par l'Office des personnes handicapées, Fondation Mirella Illinois, c'est plutôt que je salue d'ailleurs, la Chambre des notaires, puis Fonds de relance, différents fonds. J'espère que le financement sera toujours au rendez-vous et que si jamais vous avez besoin de partir d'une campagne de financement, les gens répondront à l'appel parce que vous faites un travail extraordinaire, vous et votre équipe, là, au sein de votre organisation.
Ah, merci infiniment, M. Lantaigne. C'est vraiment apprécié pour nous de pouvoir venir présenter nos missions dans une émission qui nous permet d'être moins anonymes.
Ben voilà. Alors, vous allez devoir gérer la croissance des appels. Je vous remercie beaucoup. Ça a été un très, très grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous et de vous être prêté au jeu.